C'est Édouard Brezin qui va nous parler aujourd'hui de la compétition entre ordre et désordre, ou bien pourquoi la matière change-t-elle d'état. Édouard Brezin est né en 1938, il est ancien élève de l'école polytechnique, docteur d'état en physique théorique. Il a commencé sa carrière comme chercheur au service de physique théorique à Saclay, puis il est devenu professeur de physique à l'école polytechnique, où il exerce d'ailleurs, je crois, toujours à temps partiel, professeur de physique à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école normale supérieure, où il a dirigé le département de physique de 1986 à 1991. Depuis 1991, il est professeur, membre de l'Institut universitaire de France et membre du laboratoire de physique théorique de l'école normale supérieure. Il est aussi membre de nombreux conseils scientifiques de diverses institutions, et notamment il est président du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique. Sa spécialité, c'est la physique théorique et notamment en théorie quantique des champs et physique statistique. Il est aussi membre de l'Académie des sciences. Pour ses publications, je ne peux pas en donner, je veux dire, sous forme de livre. Ce sont essentiellement des publications techniques dans des revues à comité de lecture en un nombre tout à fait imposant. Alors, je lui passe la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite pour vos questions. Merci.
Merci beaucoup de cette introduction. Je dois vous dire avant de commencer combien je suis impressionné, je devrais dire émerveillé. C'est-à-dire que lorsque j'ai été contacté par les organisateurs de l'Université de tous les savoirs, par M. Michaud, et qu'on m'a dit que je devrais faire une conférence le 7 août sur les états de la matière, j'ai accepté bien volontiers, mais j'étais convaincu que je ne parlerais qu'à ma barbe. Et à l'évidence, je salue ici la compréhension de l'état de demande de l'opinion des gens qui effectivement sont ici parce qu'ils ont envie de comprendre. Je n'avais pas soupçonné que l'on pouvait recueillir le 7 août à 18h30 autant de monde pour parler de ce sujet. Alors ceci ne fait qu'accroître la responsabilité qui est la mienne. Je vais donc vous parler d'un sujet qui a connu... dont les racines remontent, plongent aussi loin qu'on peut les suivre dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'humanité, et qui pourtant, au cours des 25 ou 30 dernières années, a connu des bouleversements que je trouve extraordinaires, spectaculaires, qui ont marqué notre compréhension du monde et de la matière, sous toutes ses formes, depuis l'univers, jusqu'à la matière macroscopique ou au monde des particules élémentaires. Et ce sont ces trois échelles que je voudrais aborder. Le vrai titre, j'ai donné compétition ordre-désordre ou changement d'état dans la matière. Le vrai titre, je n'ai pas osé le donner parce que j'avais l'impression qu'il ne dirait rien à personne. Et je pense qu'il ne dit rien à personne. Il s'appelle les symétries et leurs brisures. Un mot un peu vilain, mais il n'y en a pas d'autre. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler des symétries. Alors, les physiciens théoriciens et les mathématiciens sont singulièrement démunis. La règle du jeu ici est bien sûr d'écarter tout formalisme. Ceci ne nous simplifie pas la vie. Je n'ai pas de volcan ou d'objets zoologiques à vous montrer. Donc, il va falloir que je m'en sorte avec des mots. Et ce n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire. Si on utilise parfois du formalisme, c'est parce que ça simplifie la vie. Donc, je vais vous parler de symétrie. Il est certain qu'elles sont avec l'homme depuis sa naissance. Depuis toujours, le sentiment d'harmonie dégagé par un objet symétrique est évident. C'est pour probablement, peut-être, enfin je ne fais que spéculer là, la quasi-identité des moitiés gauche et droite de la plupart des espèces vivantes, enfin de beaucoup d'espèces vivantes, qui a conduit à l'adoption de canons esthétiques qui étaient présents à l'évidence chez les premiers architectes égyptiens et grecs. Plus près de nous, je retiendrai quelque chose qui n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui, mais dont la démarche va nous intéresser, c'est Kepler. Kepler, était fasciné par la beauté. Et la beauté, pour lui, était contenue dans les cinq polyèdres réguliers, platoniciens, épicuriens. Il était connu des Grecs, certainement. Vous savez qu'on peut construire des polygones réguliers avec autant de côtés que vous voulez. Si vous voulez dessiner un polygone à 45 côtés, tout le monde sait le faire. En revanche, déjà, Platon savait que si on voulait, dans l'espace, fabriquer des polyèdres réguliers, identiques de tous les côtés, il n'y en avait que cinq. Je les ai dessinés là. Ils sont bien connus, l'octaèdre, le cube, etc. Et Kepler était tellement fasciné par cette beauté qu'il a voulu en faire une théorie des planètes. À son époque, on connaissait cinq planètes. Et dans ces conditions, il a construit quelque chose qui n'avait rien d'absurde, qui était une théorie des distances de ces cinq planètes majeures du système solaire connues à l'époque, en se servant de ces solides platoniciens. C'est-à-dire, je crois qu'il est parti de l'octaèdre, il a considéré une sphère circonscrite à l'octaèdre, inscrite dans l'icosaèdre, circonscrite après à l'icosaèdre, et inscrite dans le dodécaèdre, etc., des sphères emboîtées, rentrant dans l'un de ces polyèdres et circonscrite au suivant. Et quand il calculait les rayons successifs, il trouvait, avec une assez bonne image, les rayons connus des cinq planètes de l'époque. C'était donc un essai pour prédire, je dirais de manière quantitative, simplement à partir de symétrie a priori, de sentiment d'esthétique, là, plus qu'autre chose. Alors que par ailleurs, comme vous le savez, Kepler a eu une vision très quantitative du mouvement des planètes. Mais néanmoins, vous voyez à quel point la symétrie était présente. Bien sûr, ce modèle a été vite abandonné, par exemple parce qu'en 1781, on a découvert une sixième planète du système solaire qui s'appelle Uranus, et donc il n'y a pas de sixième solide platonicien, donc on ne pouvait pas poursuivre ce rêve au-delà. Pourtant, ce n'est que donc après tous ces siècles, qu'à partir de la fin du siècle dernier, que, dépassant des considérations géométriques et esthétiques, la symétrie s'est imposée progressivement comme un instrument de compréhension de l'univers. Et finalement, avec la notion contemporaine de symétrie locale, ce que je voudrais tenter d'expliquer tout à l'heure, qui est extrêmement difficile, donc ce concept est apparu comme le concept premier et unificateur qui permet aujourd'hui de comprendre l'organisation de la matière, les interactions entre ses constituants élémentaires, les quarks, l'électromagnétisme, les forces présentes dans les noyaux et dans les atomes, et même la cosmologie de notre univers en inflation, issue du Big Bang initial, fait appel à cette notion de symétrie spontanément brisée, j'y reviendrai. Donc le rêve de Kepler s'est en quelque sorte réalisé, la symétrie détermine le monde. Elle ne fait pas que le décrire, elle le fixe de manière quasi unique. Alors vous allez voir, ce n'est pas très simple à suivre, que le langage nous tend souvent des pièges difficiles à éviter, je vous en signale un tout de suite. À côté de symétrie et dissymétrie, nous trouvons ordre et désordre, j'avais écrit cela tout à l'heure, qui leur sont étroitement associés, mais il faut y prendre garde. C'est à la symétrie qu'est associé le désordre, alors que l'ordre résulte de la symétrie brisée, qui n'est pas l'absence de symétrie, donc il va falloir que j'explicite cette notion. Avant d'en venir à la période contemporaine, je ne suis pas historien des sciences, mais je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le XIXe siècle, où deux grands scientifiques ont marqué le problème des symétries. Il s'agit de Louis Pasteur et de Pierre Curie. Ils nous ont laissé des concepts profonds, des interrogations qui n'ont cessé de nous accompagner depuis lors. Je vais commencer avec Louis Pasteur. Les expériences du jeune Pasteur, Pasteur était chimiste initialement, comme vous le savez, il est devenu biologiste, le biologiste génial que vous ne connaissez que plus tard, pour des raisons qui d'ailleurs vont apparaître tout de suite. Mais j'en suis encore au jeune Pasteur chimiste, qui cherchait à comprendre pourquoi des substances comme le quartz faisait tourner le plan de polarisation de la lumière. Alors permettez-moi, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'essayer de représenter là-haut un faisceau lumineux, et puis un faisceau lumineux, en réalité, sans qu'on le voie, c'est un champ électrique et un champ magnétique. Lorsque le faisceau se propage avec un champ électrique qui reste parallèle à lui-même, on dit qu'il est polarisé. Par exemple, lorsque vous mettez des lunettes des polaroïdes, vous sélectionnez l'une des polarisations possibles. Et d'ailleurs, si vous mettez un deuxième, vous avez déjà joué à ça, une deuxième lunette identique croisée, vous n'avez plus rien parce que vous avez successivement éliminé une des polarisations possibles, puis l'autre. Bon, je reviens à des choses qui sont bien connues. Et donc, on savait qu'il y avait des substances qu'on appelle aujourd'hui chirales, je vais venir pourquoi, qui faisaient tourner cette polarisation. C'est-à-dire que lorsque la lumière traversait cette substance, la polarisation dans ce sens-là ressortait tournée d'un angle qui s'appelait le pouvoir rotatoire. Donc il cherchait à comprendre d'où sortait ce pouvoir rotatoire. Et il avait pressenti que cette notion macroscopique avait une contrepartie dans la structure de la matière. Donc, il s'est dit, il a commencé à étudier, et ça c'est extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas historien des sciences, j'aimerais bien qu'il nous dise pourquoi, des cristaux de paratartrate de sodium. Bon. Alors, il a vérifié que ces cristaux étaient un mélange de deux types de cristaux, qui étaient tantôt tous identiques à eux-mêmes, tantôt simplement identiques à l'image du premier cristal dans un miroir, ce qu'on appelle en mots savants des énantiomères. Voilà par exemple, pour fixer les idées, deux tétraèdres énantiomorphes, c'est-à-dire ils sont absolument semblables, toutes les distances de tous les points, tous les angles sont les mêmes, mais ces deux tétraèdres ne sont pas superposables, l'un est l'image dans le miroir de l'autre, de la même façon que mes deux mains, c'est pas comme ça que je les superpose, l'une est l'image dans le miroir de l'autre. Donc il a pris ces cristaux de tartrate de sodium et à la main, au microscope, il a vu que c'était un mélange à parts égales de deux types de cristaux qui étaient absolument semblables. Simplement, il y en avait la moitié qui était d'un type et l'autre qui était leur image dans le miroir. J'ai pris ici non pas des cristaux de paratartrate, mais des cristaux de quartz. Si vous regardez, je ne sais pas si on voit bien, si on voit c'est, ici, c'est des cristaux de quartz. Ils sont absolument identiques, simplement, ils ne sont pas superposables. Il faudrait un miroir pour superposer l'image de l'un à l'autre. Donc il s'aperçoit qu'il y a deux types de cristaux à parts égales et il montre que chacun de ces cristaux a un pouvoir rotatoire opposé et donc ils ont construit à l'intérieur ce qu'on appelle une chiralité du mot grec qui veut dire main. Et donc il s'aperçoit que lorsqu'on synthétise ces cristaux au laboratoire, il était bon chimiste, il savait faire ça, on a 50% de cristaux gauche et 50% de cristaux droit, et au total, il n'y a plus aucun pouvoir optique, parce que la rotation de l'un est compensée par la rotation de l'autre. L'autre, il ne reste rien. Mais la découverte de Pasteur, elle est beaucoup plus loin, parce qu'au lieu de synthétiser des paratartrates en laboratoire, il prend ces résidus qu'on a dans le vin d'acide tartrique, qui sont aussi des paratartrates, et il s'aperçoit que dans ces cristaux issus de la vie, de la fermentation, de levure, alors tous ces cristaux-là sont lévogyres, ils tournent tous vers la gauche. Donc il y a une asymétrie du vivant, qui est déjà un problème sur lequel je vais revenir dans une seconde. Et depuis, la biochimie n'a cessé de nous montrer que toutes les molécules constitutives du vivant, l'ADN, les protéines, etc., sont asymétriques, mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est qu'elles ont une homochiralité universelle, ce qui veut dire en termes concrets que si vous prenez les hélices qui constituent l'ADN, vous connaissez tous ça, voilà des hélices, j'ai dessiné ici, pardonnez au mauvais dessinateur, une hélice droite et une hélice gauche, l'une tire-bouchonne à la française et l'autre à l'anglaise, dit-on, j'ai jamais essayé, bon, l'une tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre. Donc il y en a des droites et des gauches. Il se trouve que lorsqu'on prend l'ADN, chez toutes les substances vivantes, ce n'est pas une hélice, mais c'est deux. Mais dans toutes les substances vivantes, ce sont des hélices droites. Or, comment expliquer une telle différence entre la biochimie et la chimie du monde inanimé ? C'est bien un mystère, car les processus physiques qui régissent la constitution des atomes et des molécules, et la chimie, c'est bien ça, ne distingue pas la droite de la gauche, a priori. Les forces qui régissent les atomes, qui sont des forces électriques assez simples, ne distinguent pas la droite de la gauche. Et donc, une réaction chimique ou celle qui serait l'image de la même réaction dans un miroir qu'on pourrait réaliser ont exactement les mêmes chances de se produire. Rien ne les distingue. Alors, rien ne les distinguait, je devais dire. Je voudrais signaler tout de même qu'en 1956, cette conception qui faisait que la chimie ou le monde, les processus vus directement ou vus dans un miroir avaient exactement la même chance de se produire, ce processus est battu en brèche par une contribution extraordinaire de deux physiciens, Li et Yang, deux Américains nés en Chine, qui en 1956 formulent l'hypothèse que les interactions nucléaires responsables, faibles, c'est-à-dire responsables de ce qu'on appelle la désintégration bêta, la radioactivité bêta, je ne veux pas rentrer dans les détails là, n'étaient pas identiques à leur image dans un miroir. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Cette non-conservation de la parité, comme on dit en termes techniques, a été rapidement mise en évidence en 1957 dans l'équipe de Columbia de Madame Wu. Alors voilà ce qu'a fait Madame Wu. J'espère qu'on pourra voir ici la non-conservation de la parité. C'est pas très net. Li et Yang, Madame Wu, elle a pris du cobalt 60 qui se désintègre dans du nickel 60, un électron et un neutrino que je vais oublier ici. Le cobalt 60 a, comme on dit en langage technique, un spin, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même. On peut se l'imaginer comme une petite toupie en rotation. Et on s'aperçoit qu'il y a des électrons qui partent de ce cobalt 60 dans la direction opposée au sens de la rotation du cobalt. Si on prend l'image dans le miroir, vous voyez que quand on prend une petite boucle de rotation dans un miroir, une hélice droite se transforme en hélice gauche. En revanche, l'électron, lui, part toujours dans le même sens. Le miroir ne change rien au sens de propagation de l'électron. Donc, dans le miroir, on devrait voir un électron qui est cette fois-ci aligné avec le spin, c'est-à-dire le vecteur qui représente la rotation. Or, quand on fait l'expérience, il n'en est rien, il est opposé. Ce qui veut dire que la nature distingue fondamentalement la droite de la gauche, ou si vous me permettez une image plus quotidienne, si nous essayons jusqu'à ce moment-là, on pouvait se poser la question, certains se la posaient, je crois, est-il possible d'imaginer que nous communiquions à des extraterrestres dont nous n'avons aucune idée de la structure, mais qui connaîtraient les lois de la nature? Est-ce qu'on peut leur communiquer ce que nous appelons la droite et la gauche? Jusque-là, la réponse était non. Nous n'avons aucun moyen, sauf en les approchant et en leur montrant, de dire ce qu'on appelle la droite et la gauche. La prédiction de Li et Yang, la vérification de Madame Wu, c'était qu'effectivement, la nature distingue de la droite de la gauche. Alors j'en reviens à Pasteur. Est-ce que cette asymétrie, qui a priori ne se manifeste que dans des interactions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la chimie, est suffisante pour expliquer l'extraordinaire homochiralité du vivant? Je n'en sais rien, certains le pensent. D'autres préfèrent imaginer des fluctuations dans des populations égales, on dit des mélanges racémiques, d'énantiomères droits et gauches, et puis une petite fluctuation due au hasard s'amplifierait et l'une des chiralités l'emporterait sur l'autre. Je ne pense pas que ce mécanisme pourrait suffire sans évoquer le précédent. D'autres enfin, à la suite de Jacques Monod, voit dans cette homochiralité la preuve d'une origine unique, commune à tous les êtres vivants, une cellule initiale ou un objet initial capable de se répliquer, qui se trouve avoir une chiralité et donne naissance à tous les êtres vivants, tous les objets vivants que nous connaissons. Je ne vais pas trancher ici, mais vous voyez à quel point l'observation de Pasteur est encore présente de nos jours et combien elle nous concerne. Je viens au second pionnier qui est Pierre Curie. Pierre Curie a découvert, avec son frère d'ailleurs, la piézoélectricité du quartz. Il était tout jeune, il avait 21 ans. C'est une propriété aujourd'hui très abondamment utilisée. Nos montres à quartz utilisent cette piézoélectricité, c'est-à-dire
la propriété qu'a le quartz si on lui impose une contrainte mécanique de développer ce qu'on appelle un moment électrique, des propriétés électriques que l'on utilise, des vibrations d'ailleurs, qu'on utilise dans nos montres à quartz. Et Pierre Curie essaye de réfléchir entre le lien entre la direction de la contrainte qui vient agir sur le cristal, peut être comme ça dans toutes les directions, et la polarisation électrique qui apparaît. Et en essayant de réfléchir à ce lien, il formule un grand principe qui paraît un peu creux et qui pourtant est très profond. Je vais vous lire ce qu'écrit Pierre Curie. Il dit « Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets possibles. » Alors ça paraît banal, mais pourtant, ce principe est d'utilisation parfaitement opératoire. Je vais en prendre un exemple. Les chimistes se sont rapidement demandé « Peut-on réaliser une synthèse asymétrique ?» C'est-à-dire, on a dans le mélange naturel, comme je vous le disais tout à l'heure, deux énantiomorphes en proportions égales. Peut-on favoriser l'un par rapport à l'autre ? Certains avaient dit, c'est facile, on met un champ magnétique. Eh bien, le principe de Curie implique, à l'évidence même, je ne veux pas rentrer dedans, mais que c'est impossible sous l'effet d'un champ magnétique. Je voudrais signaler d'ailleurs que Degène y est revenu en 1970 en étudiant ce qui se passait sous l'effet d'un champ électrique et magnétique parallèle, et il a montré que là encore, ça c'était plus surprenant, ça n'était pas possible. Mais les chimistes savent le faire. Nous savons aujourd'hui que ce principe de Curie pris au pied de la lettre ne couvre pas le champ important des symétries brisées, que je n'ai toujours pas défini. Et il est paradoxal de constater que l'une des premières brisures connues est due aussi à Pierre Curie. C'est la transition entre un paramagnétique et un ferromagnétique. J'y reviendrai, c'est très simple, les mots sont compliqués, mais les objets sont très simples. Donc j'en viens à la période plus contemporaine, et je vais commencer par cette compétition ordre-désordre, qui se manifeste dans ce qu'on appelle la physique statistique. La physique statistique, c'est la science qui s'est bâtie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui doit beaucoup à Boltzmann, à Vienne et Gibbs aux États-Unis, qui établirent donc les fondements de cette science qui permet de comprendre les propriétés du monde macroscopique à partir des constituants élémentaires. Examinons à l'échelle, en suivant la démarche microscopique vers le macroscopique, examinons un processus simple et familier comme le gel d'un liquide. De l'eau gèle, il fait froid. Le solide ainsi formé, solide, c'est une structure régulière, périodique, dans laquelle les molécules constituantes viennent se ranger au sommet d'un réseau spatial bien ordonné qui se reproduit dans toutes les directions, j'allais dire à l'infini à l'échelle microscopique, c'est un millimètre, c'est l'infini, puisque il y a déjà les distances interatomiques sont des angström, c'est-à-dire des, permettez-moi de dire une seconde, 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire un dixième de milliardième de mètre. Voilà les distances, vous voyez qu'un millimètre c'est considérable. Et donc, les atomes se répètent. Je voudrais d'ailleurs au passage, ici, je ne le ferai qu'une fois, signaler le lien étonnant entre mathématiques et physique. Les symétries mathématiquement sont exprimées par ce qu'on appelle la théorie des groupes, c'est-à-dire la théorie des opérations qui laissent un objet inchangé. Les mathématiciens qui sont venus ici en ont certainement parlé. Cette théorie a conduit à montrer qu'il n'existait que 230 structures périodiques possibles, aucune autre, pour les arrangements spatiaux des molécules. Les cristallographes ont découvert 230 structures cristallographiques dans le monde qui nous entoure, et pas plus. Mais, hélas, depuis 1984, on sait que la nature sait déjouer les théorèmes mathématiques. 1984, on a découvert un solide, il y avait toutes les propriétés d'un solide, qui avait une symétrie d'ordre 5, c'est-à-dire quand on regardait, on imagine de le faire tourner d'un cinquième de tour complet, en réalité on regarde la diffraction aux rayons X pour faire ça, on s'aperçoit qu'il a une symétrie d'ordre 5. Or, aucune des 230 structures dont je viens de parler n'a de symétrie d'ordre 5. On sait aujourd'hui que la nature a su créer des objets incroyables, extraordinaires, qui sont des objets... On en voit souvent des représentations à deux dimensions, je ne sais pas dessiner à trois. En voilà une due au mathématicien physicien anglais Roger Penrose, dans lequel on voit un pavage du plan avec deux types de losanges. Ce pavage est un beau pavage, il remplit bien le plan, comme si on pavait avec des petits carrés ou des hexagones ou des triangles. Mais ce pavage est complètement apériodique, il ne se répète jamais, et il se trouve que celui-là a une symétrie d'ordre 5, même si ce n'est pas tout à fait apparent sur la figure. Donc j'en reviens à mes solides. Ils s'appellent les quasi-cristaux, ces solides-là. Essayons de nous représenter le comportement des molécules, donc quand on passe du liquide au solide et qu'on abaisse la température, on passe par 0 degré. Alors d'abord, il faut être conscient du gigantisme du nombre de molécules. Je suis certain que tous les gens qui sont ici le savent, mais une minuscule goutte d'eau est quand même constituée de plusieurs milliards de molécules. Aussi petite soit-elle, hein, je veux dire un millimètre cube, ça fait ça. Vous abaissez la température, là vous passez 0 degré, vous passez le 0 degré vers le dessous, et vous mettez dans un ordre spatial parfait, ou presque parfait, il y a quelques défauts, un nombre colossal d'objets, sans avoir changé les molécules. Les molécules se moquent parfaitement de ce que vous ayez passé de plus 0 degré à moins 0 degré, et elles se moquent parfaitement dans leur loi de force de la température. La force qui est de molécules, ça se repousse à courte distance, ça s'attire un peu plus loin, ça se moque totalement de la température. C'est un concept qui est indépendant de la température. Donc, à l'échelle microscopique, quand vous passez de plus 0 à moins 0, entre deux molécules, il ne se passe rien. Rien n'est changé. Pourtant, vous en avez des milliards qui d'un seul coup sont venus se mettre en place, et la seule image que je peux en donner, c'est voilà le liquide, et puis d'un seul coup, si j'arrive à mettre ça en place, tout le monde est venu se mettre gentiment, là, toutes ces flèches bleues sont venues se mettre gentiment en ordre. Imaginez que vous preniez le film de la fin d'un défilé militaire, au moment où tous les soldats s'éparpillent, bien rangés, vous prenez ce film, vous le rapportez chez vous, vous le projetez en sens arrière, en marche arrière. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, qui est que du désordre va sortir un ordre incroyable. Et là, il faut imaginer un ordre qui implique des milliards de soldats qui défilent, qui sont ces molécules. C'est quand même extraordinaire. Comment se fait-il qu'il se produise quelque chose comme ça ? Donc vous voyez un phénomène banal, mais qui nous, tout de suite, il faut essayer de le comprendre. La transition entre solide et liquide est la manifestation de deux phénomènes antagonistes qui mettent en jeu énergie et entropie. Rassurez-vous, je vais définir ce que je veux dire ici. Dans cette matière macroscopique, en effet, les configurations spatiales de ces molécules qui sont considérables sont en nombre considérable. Chacune d'entre elles, chacune de toutes ces possibilités dans toutes ces molécules, est capable de se réaliser, c'est ça la physique statistique, avec une petite probabilité. Cette probabilité dépend de la température. C'est là où la température intervient et où nous dit Boltzmann. À très basse température, ce sont les configurations qui sont les plus probables, sont celles qui ont une très basse énergie. Or, comment avoir une basse énergie ? Ça veut dire que vous avez toutes ces molécules, elles s'attirent un peu, pas trop, mais un peu quand même, sinon elles ne s'ordonneraient pas entre elles, il faut bien qu'il y ait des interactions. On ne peut pas les pousser trop près l'une de l'autre, parce que là, elles se repoussent, mais elles s'attirent. Et donc, pour profiter de cette attraction, à basse température, elles vont profiter de cette attraction et elles vont s'ordonner. Cela dit, à plus haute température, la multiplicité des configurations possibles que les physiciens appellent entropie depuis Boltzmann, c'est lui qui a compris que ce mot compliqué ne veut pas dire autre chose que multiplicité du possible, des configurations possibles, peut faire qu'on privilégie des configurations peu probables, mais tellement nombreuses que le nombre va l'emporter sur la petite probabilité. Et c'est ça la compétition entre ordre et désordre. J'en avais fait quelque part un exemple, j'y reviendrai à propos du magnétisme. Donc, la multiplicité des configurations fait qu'à haute température, c'est le désordre qui va l'emporter, et à basse température, c'est l'ordre pour profiter de ces attractions entre molécules. Elles vont se ranger. Mais comparons le liquide et le solide du point de vue des symétries. C'est là où je vous disais, attention au langage. Le liquide est parfaitement isotrope. Vous regardez un liquide, vous pouvez le tourner dans tous les sens, il ressemble toujours au même liquide. Vous prenez comme point d'observation tel point ou tel autre dans le liquide, c'est absolument identique. Le liquide se moque de tout translation, comme on dit, de tout changement qu'on peut lui faire connaître, de déplacement spatial. C'est certainement pas le cas du solide. Le solide n'est pas homogène, il a des axes d'orientation privilégiés, il a des points privilégiés, des nœuds privilégiés de ce réseau dans lequel les molécules sont venues se mettre. Or, pourtant, rien n'est venu ni privilégier des axes. Vous fabriquez un certain cristal de quartz, vous auriez pu, dans les mêmes circonstances, en fabriquer un autre, juste un peu tourné. Il se trouve que vous en avez réalisé un qui, lui, est moins symétrique. Autrement dit, vous voyez que l'ordre est moins symétrique. On ne peut pas le tourner dans tous les sens, on ne peut le tourner que par un certain nombre d'opérations en nombre limité qui laisse ce cristal, qui le superpose à lui-même. Donc l'apparition d'un ordre, c'est ce qu'on appelle une brisure de symétrie. Alors pour visualiser de manière intuitive, parce que ce n'est pas un concept difficile, ce que c'est qu'une brisure de symétrie, je vais prendre des exemples. En voilà un que bien connu. On prend une poutre et puis on appuie sur la poutre, ma poutre là est au milieu, et quand on appuie suffisamment, elle flambe, elle fait un angle comme ça, même si on appuie aussi bien que l'on peut, aussi verticalement que l'on peut, la poutre va flamber, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune direction privilégiée a priori, mais au bout d'un moment, la situation, la solution que la mécanique des solides choisit est une solution dans laquelle on est plus symétrique, on a choisi une certaine direction, un certain angle dans lequel la poutre flambe. Autres exemples encore plus simples, le premier c'est celui d'un crayon sur une pointe, il va tomber, la direction est au hasard, mais il sera moins symétrique. Un autre exemple encore qui lui est plus pertinent à la physique qui nous intéresse serait une bille en équilibre instable là, qui va tomber à droite ou à gauche, ou si c'était un chapeau mexicain dans toute la gorge du chapeau, mais qui ne restera pas indéfiniment dans cette situation. La symétrie qui est là, parfaite lorsque on est à l'équilibre, va se briser, et elle va se briser spontanément. J'ai perdu un de mes micros. La compréhension de ce mécanisme de compétition ordre-désordre ou énergie-entropie, la compréhension réelle, s'est étendue sur de nombreuses décennies. Après de longues années d'interrogations inconclusives, les travaux de 1940 du physicien Rudolf Peierls, qui avait fui le nazisme en Angleterre, montraient que la formulation statistique de la physique, qui doit tant à Boltzmann, contenait bien la possibilité, la nécessité même, de brisure spontanée de symétrie, de transition de phase, c'est la même chose, de changement d'état de la matière. C'était un débat qui, jusqu'à là, était vif dans la petite communauté des physiciens d'époque. À la même époque, la balle passe en Union soviétique, où un grand théoricien de notre époque, de notre siècle encore, Lev Davidovich Landau, à Moscou, permet en gros de comprendre et de classer toutes les symétries et leurs brisures spontanées. Il introduit un concept de paramètre d'ordre. Alors je vais prendre un exemple de paramètre d'ordre parce que c'est simple. Je vais prendre l'exemple du magnétisme. Alors dans le magnétisme, il y a deux situations. Une situation A, je ne sais pas si on voit, qui est la situation la plus courante, paramagnétique, on dit. C'est-à-dire que si vous appliquez un champ magnétique, le système va s'aimanter, mais si le champ magnétique s'annule, le système n'a pas d'aimantation. Et puis, il y a d'autres choses qui sont des aimants permanents qui, eux, ont une aimantation, même s'il n'y a aucun champ pour venir, pour orienter le système. Vous connaissez, nous avons tous joué avec des aimants. Les aimants sont des ferromagnétiques qui possèdent une aimantation en l'absence de tout champ pour les orienter. Et donc, cette aimantation est un paramètre d'ordre, c'est-à-dire qu'elle caractérise dans quelle phase on est. Curie avait montré que si on prend des oxydes de fer, à haute température, ils sont dans la situation que j'ai appelée A, à basse température, dans la situation B, et c'est parfaitement c'est une transition de phase qui est parfaitement reproductible qu'il a étudiée en grand détail. Il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et la phase de droite, quand le champ s'annule, il n'y a plus aucune direction, il n'y a plus d'aimantation, c'est une phase isotrope. Elle est parfaitement, on est de nouveau dans cette situation. Il n'y a pas d'ordre, elle est isotrope, elle est très symétrique. En revanche, dans la phase de gauche, ferromagnétique, il y a un ordre qui est cette aimantation. Elle est moins symétrique, car les seules rotations qui nous restent sont celles autour de l'aimantation. Donc voilà la notion de paramètre d'ordre. Et donc, tout le monde était content. Landau avait fait une magnifique théorie de la symétrie brisée, de son apparition en l'absence de toute sollicitation extérieure. C'est ça qu'on appelle une symétrie spontanément brisée. Hélas, dans les années 1960, des moyens expérimentaux nouveaux arrivent. La diffusion des lasers, la diffraction des neutrons. Et il révélait que la théorie développée par Landau, bien que souvent qualitativement en accord avec l'expérience, était en fait quantitativement erronée. Et si vous me permettez, je n'exposerai pas ici les travaux qui ont permis de résoudre ce problème, qui, eux, datent de notre époque, qui portent le nom barbare de groupe de normalisation et qui ont valu à l'Américain Kel Winson le prix Nobel de physique 81. Je voudrais en arriver à une autre partie de cette conférence, et je vais rapidement, je dois approcher de la fin, je voudrais parler des symétries du monde subnucléaire et un tout petit peu de l'univers et du Big Bang. Je ne suis pas spécialiste, simplement ce que j'en comprends que me disent les cosmologistes. Les concepts de symétrie associés à des opérations qui laissent le système invariant sont apparus très souvent dans la physique. Je voudrais prendre un exemple que, historiquement, vous avez certainement souvent entendu citer. Il y avait une contradiction entre les équations de la mécanique héritées de Galilée et de Newton et la théorie de l'électromagnétisme qui avait culminé avec Maxwell au XIXe siècle. En effet, Lorentz et Poincaré ont montré que les symétries des équations de l'électromagnétisme étaient contradictoires avec celles de Galilée et réciproquement. Et c'est cette contradiction qui a conduit Einstein à la relativité restreinte. C'est une considération de symétrie. Un peu plus tard, Einstein, qui voulait décrire les lois de la physique d'une manière totalement indépendante de l'état de mouvement d'un observateur, est conduit donc par des considérations de symétrie à la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation, qui est la base de la cosmologie de notre époque. Plus près de nous, les quarks, qui sont les éléments constitutifs de la matière, des neutrons, protons, des noyaux d'atomes, les quarks ont été... Alors, ils sont un peu bizarres parce qu'ils existent, mais on ne peut pas les produire à notre époque, depuis les quelques instants qui ont suivi le Big Bang, ils sont confinés. Les quarks ont été mis en évidence par des propriétés de symétrie révélées par la classification du zoo des particules élémentaires que nous connaissons et une démarche qui rappelait beaucoup l'élucidation de la structure des atomes à partir des régularités du tableau de Mendeleïev. Mais tout ça, ce sont des symétries, j'allais dire classiques, globales, évidentes. À notre époque, nous sommes arrivés à une notion plus importante, qui est la symétrie locale, qu'on appelle quelquefois symétrie de jauge. Le mot n'est pas très joli. Le mot de jauge, là, n'apporte rien, mais c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont permis de comprendre, à la période contemporaine, les interactions entre les particules élémentaires, les interactions électromagnétiques, les interactions nucléaires faibles, responsables de la radioactivité bêta, par exemple, ou les interactions fortes qui lient les noyaux d'atomes. La symétrie n'est plus cette fois une simple propriété de la structure, mais l'élément qui permet de fixer entièrement la dynamique des forces électromagnétiques et nucléaires. C'est un peu le rêve de Kepler. cette fois. La symétrie suffit à fixer l'unicité du monde. En 1925, je remonte à quelque chose qui n'a rien à voir, mais il faut citer les sources, les travaux du physicien anglais Paul-Adrien Marie Dirac, sa mère était française, établissaient une théorie de l'électron en interaction avec le rayonnement électromagnétique qui incorporait à la fois la nouvelle mécanique des quantas, la relativité et les équations héritées du 19e siècle de l'électromagnétisme. Peu d'années après, le physicien mathématicien allemand Hermann Weyl réalisa que l'interaction entre les particules dotées d'une charge électrique, les électrons par exemple, et le rayonnement électromagnétique, tel qu'elle apparaissait dans la théorie de Dirac, résultait de manière unique d'une propriété jusque-là insoupçonnée. Je vais essayer de faire un petit dessin. Il est transparent que j'ai oublié de montrer, peu importe. Voilà un petit dessin. Ce que j'ai appelé ici 1, 2, 3, si vous voyez, ce sont trois points de l'espace-temps, de l'espace. En ces trois points, j'imagine que je dessine un vecteur dans le plan. Alors qu'est-ce que c'est que ce vecteur ? En mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la phase de la fonction d'onde. Permettez-moi cette fois-ci de ne pas rentrer dans trop de détails. C'est un vecteur dans le plan. Tous ceux qui ont eu une initiation en mathématiques se souviennent qu'un nombre complexe est aussi, peut être représenté par un vecteur dans un plan. Donc voilà, j'ai un nombre complexe ou un vecteur en 1, un vecteur en 2, un vecteur en 3. On peut imaginer ce que j'appellerais une symétrie globale, dans laquelle je fais tourner tous ces vecteurs du même angle, alpha. Et je me demande, est-ce que la théorie change si je fais tourner tout le monde ? La réponse, c'est non. Et cette symétrie n'est pas tout à fait banale, car elle implique, je ne vais pas rentrer dans le formalisme bien sûr, elle implique ce qu'on appelle la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire que dans tout processus, la charge qui sort est égale à la charge qui rentre. Mais ceci me permet de poser la question de la symétrie locale. Imaginons que, au lieu de faire tourner mes vecteurs, l'un en 1, l'autre en 2, l'autre en 3, du même angle, je décide d'en faire tourner un de 45 degrés, l'autre de moins 45 degrés, et le troisième de 90. Est-ce que la théorie résiste à de telles rotations locales de la fonction d'onde ? La réponse est non. La réponse est non. Si on fait tourner, l'énergie change, toutes les équations changent. Pour des particules en l'absence de champ. Mais ce que Hermann Weyl comprend, c'est que si on ajoute le champ électromagnétique, il est là pour propager l'information en 1, au point d'espace-temps 1, qu'on a tourné, pour qu'en 2, on puisse tourner et que ceci soit néanmoins une symétrie. Autrement dit, grâce au champ électromagnétique, on peut tourner indépendamment tous les points de l'espace, et c'est le champ électromagnétique qui propage cette information. Et vous voyez bien que si je peux tourner indépendamment en des points arbitrairement séparés, ça implique des interactions à longue portée. Et si vous vous souvenez de vos cours de physique élémentaire, l'interaction électromagnétique est une interaction de portée infinie. Donc, ça c'était la remarque d'Hermann Weyl. Remarque numéro 2, retournons la démarche. Au lieu de suivre Maxwell, Dirac, etc., postulons que cherchons une théorie qui aurait cette invariance, a priori, ce serait ça le principe, la réponse, c'est qu'il ne sort de cela qu'une seule théorie, qui est celle de Maxwell, Dirac et tous les fondateurs de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique. Donc, la symétrie locale est suffisante pour fixer complètement la théorie. La généralisation de ces idées à des symétries plus complexes qu'une simple rotation de vecteurs dans un plan fut l'œuvre de Young et Mills en 1956. Y apparaissent d'autres champs de jauge que les photons, mais ils n'ont pas reçu d'ascension initialement, car pour les mêmes raisons, les particules associées étaient elles aussi des particules sans masse comme les photons. C'est la seule façon de propager des interactions à grande distance. Et donc, les théoriciens qui, à l'époque, essayaient de comprendre les forces nucléaires ont rejeté les théories de Young-Mills, car les forces nucléaires sont des forces de très courte portée. Par exemple, les forces nucléaires faibles, celles de la radioactivité bêta, ont une portée qui dépasse guère quelques milliardièmes de mètres. Donc ça paraissait absurde de les faire sortir de cela. Pourtant, finalement, c'est une brisure spontanée de symétrie qui a permis de résoudre ce problème et de comprendre ces forces nucléaires. C'est le modèle dit de Weinberg-Salam, et d'ailleurs le dernier prix Nobel, celui de 1999, des Hollandais Toft et Veltman, récompense des travaux à ce sujet. Pour faire cela, on introduit, en plus des particules usuelles, un champ de matière supplémentaire qu'on appelle du nom de barbare de boson de Higgs, qui est toujours hypothétique, qui est toujours recherché actuellement expérimentalement. On espère que le nouvel accélérateur qui se construit au CERN le permettra de le voir à Genève. Et donc, dans une première phase symétrique qui a peut-être existé pendant quelques instants infimes après le Big Bang, le scénario de Yang et Mills avec tous ses champs de masse nulle et toutes ses forces de portée infinie était vrai, mais par suite d'une transition de phase, analogue à celle de la matière condensée, tout à fait analogue à celle de la supraconductivité, une nouvelle phase apparaissait, celle de notre monde d'aujourd'hui, dans laquelle certains de ces champs de jauge devenaient massifs et étaient donc candidats à répondre aux observations. C'est dans les années 70, à Genève, au CERN, que la découverte expérimentale des particules Z et W, qui sont ces photons lourds, permettait d'établir la validité de cette construction dont je me rends bien compte que je ne l'ai guère expliquée, mais qui est tout de même, j'espère vous l'avoir fait sentir, extraordinaire. Un dernier mot sur transition de phase et cosmologie. Le scénario classique du Big Bang, univers en expansion adiabatique à partir d'une singularité initiale, a connu des succès multiples. Le plus notable, c'est la prédiction aujourd'hui abondamment confirmée du rayonnement fossile, abandonné à lui-même depuis des milliards d'années sans pouvoir interagir, dans lequel baigne l'univers. On le connaît en très grand détail aujourd'hui. Mais diverses observations dont cette théorie devrait rendre compte, telles que la compréhension du rapport entre le nombre de particules massives et le nombre de photons de notre monde, ou encore la nécessité d'une courbure extrêmement faible dans les premiers instants du Big Bang, ont conduit là aussi à invoquer un mécanisme de symétrie brisé spontanément. Ces modèles dits d'univers en inflation, proposés par l'Américain Alan Guth et le Russe de Stanford maintenant, Alec Linday, résolvent les problèmes mentionnés ci-dessus si l'on suppose que l'univers a connu une transition de phase avec une brusque augmentation d'entropie dans laquelle notre espace-temps est apparu, un peu comme une bulle de vapeur dans un liquide à son point d'évolution, d'ébullition. Diverses variantes de cette idée sont aujourd'hui considérées, telle l'inflation chaotique qui suppose la formation d'une écume de telles bulles sans connexion causale mutuelle, évoluant chacune en différents types d'univers. Seule l'une d'entre elles, l'une de ces bulles, serait devenue notre univers. La validation de ces divers scénarios repose sur leur capacité à reproduire les paramètres aujourd'hui observés dans notre univers. Il est sans doute, à l'évidence, bien trop tôt pour conclure. Néanmoins, je note que les cosmologistes, je n'en suis pas, semblent toujours, dans tous les ouvrages que je lis actuellement, faire appel à une symétrie brisée pour modéliser l'évolution de l'univers au moment du Big Bang. Voilà, j'en arrive au terme de ces quelques minutes, de ces 50 minutes, 55, pardonnez-moi. Je me rends compte que beaucoup des choses que j'ai dites doivent vous paraître bien incompréhensibles. La seule chose que je souhaite, c'est que, puisque vous m'avez accompagné jusque-là, c'est vous avoir convaincu que jamais un si petit nombre de principes n'avait réussi à embrasser une telle diversité de situations. En définitive, à l'échelle des constituants élémentaires de la matière, tout est fixé par les symétries locales, à l'exception d'une seule force, qui est la gravitation, dont la théorie quantique fait l'objet des recherches d'aujourd'hui. Voilà, je serai très heureux de compléter.
ce qui gêne dans la brisure de symétrie, c'est finalement qu'elle semble incompatible avec le déterminisme. Parce que quand une bille n'a pas de raison de tomber d'un côté plus que d'un autre, à ce moment-là, on comprend mal qu'on puisse l'expliquer par un déterminisme.
Oui, alors je suis d'accord avec vous. De manière précise, revenons à l'exemple du système que j'appelais paramagnétique, celui qui est par rapport au ferromagnétique. Je vais expliciter la différence entre paramagnétique et ferromagnétique. Je prends le paramagnétique, celui qui n'a pas d'ordre, qui est isotrope. Je mets un champ extérieur. Si je fais diminuer ce champ, l'aimantation induite va diminuer. En définitive, lorsque ce champ va disparaître, l'aimantation induite va disparaître, le système va redevenir complètement isotrope, il ne va y avoir aucun résidu. Imaginons que je fasse la même chose à basse température, là où le système est aimanté. Je mets un petit champ, le système a une très grande aimantation, elle va se mettre parallèle au champ. Je diminue ce petit champ en le faisant tendre vers zéro, il va diminuer un petit peu, à peine, et va rester dans cette même direction. Autrement dit, vous voyez, on n'est pas hors du déterministe, toute anisotropie, aussi faible soit-elle, suffit, comme pour le crayon sur la pointe, il n'est jamais parfaitement isotrope, bien sûr, à fixer une direction. Mais elle est très faible, elle est incommensurable à la taille de l'échantillon. Il y a même des cas, et c'est pour ça que il y a des cas où on ne connaît de telles transitions de phase sans que l'on puisse introduire la moindre brisure de symétrie, car elles ne nous sont pas accessibles physiquement. Et pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, c'est le cas de la superfluidité de l'hélium, où pour pouvoir briser la symétrie de l'hélium, qui est une symétrie encore de phase de nombres complexes, il faudrait pouvoir créer ou supprimer des atomes d'hélium, ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà un exemple d'une brisure de symétrie qui se manifeste de façon plus subtile. Pardonnez-moi, là, je serais ravi d'en parler avec vous, mais il faut un tout petit peu, on peut caractériser autrement que je l'ai fait, la brisure de symétrie dans ce cas. Mais vous avez raison de poser la question, elle est tout à fait légitime.
Monsieur, ici, à l'extrême.
Pardon.
Je m'excuse pour mon mauvais français, mais quand même.
Je vous en prie.
J'ai lu dans les œuvres de Nobel, Prigogine, nous dit que loin de l'équilibre, on voit apparaître des structures complexes. Les structures complexes ne sont pas symétriques.
Non, bien sûr.
Ne sont pas isotropes.
Oui.
Et dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a une brisure spontanée de la symétrie. Et le mot spontané en lui-même cache-t-il une ignorance des scientifiques?
Oui, alors, attendez. Non, je ne pense pas que le spontané cache une ignorance scientifique. Le spontané est contenu dans des modèles précis, conduit à des calculs précis, il y a un scénario. Bon. En ce qui concerne la thermodynamique des systèmes ouverts dont parle Prigogine, il est clair que dans un système ouvert, dans lequel l'entropie augmente comme dans tout système de la nature, on peut avoir localement des diminutions d'entropie, c'est-à-dire des phénomènes d'ordre locaux qui arrivent, aux dépens de la structure globale qui, elle, inévitablement, ne peut satisfaire que la thermodynamique, c'est-à-dire aller dans des états de désordre plus grands. Je n'ai jamais réfléchi à l'organisation des systèmes ouverts, qui peut se produire dans les systèmes ouverts, en ces termes, mais peut-être avez-vous raison, c'est parce que je n'y ai pas réfléchi, mais ça n'est pas le cadre dans lequel je me suis placé là.
Oui, bonsoir monsieur.
Il y a sûrement d'autres facteurs qui font que la matière change d'état. Je pense à un truc très bien, très simple, la ruche avec les abeilles. Bon, disons que le miel...
Les hexagones, oui, vous voulez dire.
Voilà, c'est ça. Je pensais à ça, mais le miel est issu d'une matière chimique.
Oui.
Vous n'avez peut-être pas assez parlé
chimique, mais vivante.
Voilà, c'est ça.
Et donc, elle possède des chiralités du monde vivant. C'est un produit naturel.
D'accord. J'aurais aimé que vous parliez un peu plus de ce genre de transformation de l'état. des structures.
À quelle transformation fait moi, ouais, les transformations auxquelles je faisais allusion, moi, sont des transformations banales. Vous prenez du miel, vous le chauffez, il coule. Ouais. En revanche, dans la ruche, il a une structure périodique hexagonale. Ça, c'est l'analogue de la solidification. Il se trouve que le miel a une structure plus compliquée qu'un liquide, que c'est une... Enfin, je ne connais pas la structure du miel, je ne vais pas me risquer. Mais ce n'est certainement pas un liquide ou un solide classique. Ce sont des molécules extrêmement complexes et probablement multiples. Mais c'est du même ordre que la solidification dont je parlais. Quand vous prenez un solide, on fabrique très souvent des solides épitaxiés, comme on dit, c'est-à-dire par couches planes, bidimensionnelles, qui ont exactement... des structures hexagonales tout à fait analogues au miel. Donc, ça n'est pas une rareté dans la nature. Ça fait partie de l'ordre. Et en particulier, il est facile de s'apercevoir que si on veut profiter dans une couche bidimensionnelle au maximum des attractions entre molécules et de leur répulsion à courte distance, on a intérêt à fabriquer un réseau comme ça, un réseau hexagonal.
Mais à l'égard de la ruche, vous classeriez la ruche parmi les facteurs d'ordre ou de désordre ?
Attendez, chez la ruche, c'est un système trop compliqué pour que je puisse le qualifier. Je peux regarder la structure du miel. La structure du miel est une structure plus ordonnée dans la ruche que quand je le fais fondre, dans une casserole. C'est certain. C'est plus ordonné et néanmoins moins symétrique. C'était ça que j'essayais de dire.
Oui, monsieur, la théorie de la supersymétrie qui tente d'unifier les forces fondamentales aux premiers instants de l'univers,
oui,
sera-t-elle capable d'expliquer, par une rupture de symétrie que je ne conçois pas pour l'instant, le tout petit excédent de matière sur l'antimatière qui fait que je peux vous poser la question aujourd'hui ?
Bon, alors, je n'ai pas parlé de supersymétrie, c'est trop abstrait. C'est un des grands enjeux de la physique expérimentale à venir. C'est-à-dire qu'il est certain que pour des raisons variées, je vais y revenir si vous voulez, les théoriciens ont été amenés à postuler une symétrie qui pour l'instant n'a jamais été observée, dans laquelle à toutes les particules connues sont associées une particule miroir, pour l'instant jamais vue. C'est-à-dire qu'il y a un monde miroir qui nous échappe encore totalement, probablement des particules trop massives et trop difficiles encore à faire apparaître. À l'électron est associé ce qu'on appelle S-électron, photon, un photino, etc. Donc il y a un monde... Enfin, les théoriciens pensent, pour un certain nombre de raisons, qu'il faut ce monde miroir, pour l'instant jamais vu. Donc nous sommes là dans l'expectative et dans l'attente. Alors pourquoi a-t-il été invoqué ? C'est pas tout à fait pour la brisure matière-antimatière. La brisure matière-antimatière... c'est-à-dire la différence de force entre une matière et ce qu'on appelle les antiparticules associées, a été observée expérimentalement et est présente dans ce qu'on appelle le modèle standard des interactions nucléaires entre particules. Dans ce modèle, il y a une légère brisure de cette invariance qui associe à matière-antimatière. Il y a une légère différence. À laquelle est associée d'ailleurs une brisure entre le futur et le passé. Elle est de même nature, par renversement du temps. Donc, il n'y a pas besoin de supersymétrie pour ça, cette brisure a été observée. Alors la question plus profonde à laquelle je ne sais pas répondre, parce que je ne suis pas cosmologiste, c'est est-ce que cette brisure observée expérimentalement dans les grands accélérateurs, parfaitement identifiée aujourd'hui, est suffisante dans les scénarios cosmologiques pour expliquer ce que nous voyons, qui est qu'il n'y a quasiment pas d'antimatière et que nous sommes tous faits de matière et toutes les galaxies que l'on puisse voir, autant qu'on puisse en juger à l'heure actuelle. Donc, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que la brisure suffise. Est-ce que la supersymétrie suffirait, là vous me collez, je ne sais pas si la supersymétrie rendrait ça plus facile. La supersymétrie, on en a besoin pour toutes sortes de raisons. On en a besoin pour comprendre pourquoi l'univers est si plat, c'est pourquoi ce que Einstein appelait la constante cosmologique est si faible. On en a besoin pour comprendre pourquoi... bien qu'il y ait des échelles quantiques de la gravitation qui sont des masses extraordinairement lourdes, les masses des particules qui nous entourent sont beaucoup plus faibles. Cette hiérarchie des masses, comme on dit, est incompréhensible sans la supersymétrie. Elle est de plus indispensable dans ce qu'on appelle la théorie des cordes, dans laquelle je ne veux même pas entrer ici.
Je dois avouer que j'ai une profonde admiration pour la sphère. Parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de forme plus symétrique que la sphère.
Absolument.
Et c'est pour ça aussi qu'on la rencontre un peu partout et que c'est un symbole, on peut dire, de cosmologique de l'univers.
Oui.
Ce n'est pas tout à fait une question, c'est une constatation.
Mais c'est vrai que dans la mesure où toutes les lois de l'univers que nous connaissons sont inchangées si on tourne le système, la sphère est le modèle naturel de cette invariance par rotation. Vous avez raison.
Monsieur, si vous permettez, j'ai deux questions à vous poser. Il est possible que vous ayez à répéter les propos que vous avez déjà exprimés, mais cela m'éclairerait un tant soit peu. Je vous remercie à l'avance. La première question est en rapport avec la fameuse bille qui oui. se trouve sur le haut de la cloche.
Oui.
Donc, la symétrie parfaite, comme vous l'avez dit, se brise lorsqu'on lâche la bille en question. Mais se retrouve-t-elle, cette symétrie parfaite, lorsque la bille arrive en bas en état de nouvel équilibre? Ce qui me permet de vous demander cette première question. Peut-on dire que dans la plupart, si ce n'est pas dans tous les phénomènes qui nous entourent et ailleurs, on passe du phénomène de symétrie au phénomène d'asymétrie?
Alors,
c'est la première question.
Je vais répondre à votre question. Vous voyez que quand
et
la bille...
Et vice-versa, bien entendu.
Oui. Vous voyez que cette bille qui tombe représente une contradiction au principe de Curie si on le prend à la lettre. C'est-à-dire si elle tombe et si elle s'arrête à droite, imaginez qu'il y ait deux puits comme ça, si elle s'arrête à droite plutôt qu'à gauche, la symétrie des causes est moins grande que la symétrie des effets. Néanmoins, le principe de Curie, si on le généralise un peu pour dire, si je considère l'ensemble de tous les états possibles, et enrichissant le problème en imaginant que je tombe, je regarde le fond d'une bouteille, je mets une bille en équilibre là sur le sommet, elle peut tomber sur n'importe quel point de la gorge. Si je considère l'ensemble des points de la gorge, lui, il est tout à fait circulaire et tout aussi symétrique que le sommet. Donc le principe de Curie étendu pour inclure l'ensemble des états possibles et non pas un seul qui va se réaliser reste valable. Je pense que c'est ça la question telle que vous la formuliez. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que ceci vous est clair?
Oui, c'est-à-dire que peut-on, par exemple, lorsque vous évoquez le Big Bang, on peut considérer et d'autres phénomènes semblables, que en fait la nature, entre guillemets, le terme nature, permet de supposer qu'on peut aussi bien passer d'un état dans un autre et puis revenir à un état initial, en quelque sorte.
Ah non, on n'y revient pas. Là, la transition, c'est une transition dans laquelle il n'y a pas de retour, pas plus que la bille, une fois qu'elle est au fond, sauf à exercer une action considérable, ne remontera au point dont elle est partie. Toutes les transitions cosmologiques dont j'ai parlé sont de cette nature. C'est-à-dire que si on regarde les premiers instants de l'univers, d'abord l'univers est apparu, c'est ce que disent les cosmologistes, c'est une brisure de symétrie. À partir du moment où il est apparu, il était très différent de nous, ces bosons WZ qui sont très lourds, qui ont été découverts, eh bien a priori ils étaient de masse nulle comme les photons. Et puis, dans les premiers instants, il y a eu une transition de phase, une bille est tombée quelque part dans un espace un peu abstrait, et à ce moment-là, ils sont devenus massifs, et ça, c'est l'univers tel que nous le connaissons. Il aurait pu être autrement, il a choisi une certaine direction.
Merci. Deuxième question. Vous l'avez explicité dans la dernière partie de votre exposé, il s'agit du phénomène de spin.
Ah oui.
Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Comment se comporte le phénomène de spin, je dirais en dehors d'un système de tout rayonnement électromagnétique, lorsque, par exemple, vous avez évoqué une goutte d'eau? Bien. lorsque le nombre de particules possédant des spins est de l'ordre de 10 puissance 10 et au-delà, par exemple, cette accumulation de phénomènes de spins constitue-t-il dans l'espace, pas seulement dans le plan, mais dans l'espace, constitue-t-il un phénomène d'ensemble dans le même sens, c'est-à-dire un phénomène qui serait un phénomène symétrique associé à un désordre, ou bien serait-il un phénomène directionnel, accumulatif, dans le sens de phénomène asymétrique associé à un ordre brisé?
Alors votre question est très légitime, elle ne se produit pas dans la goutte d'eau, parce que dans la goutte d'eau, les spins de toutes les particules constituantes sont orientées complètement au hasard, et la moyenne de ce hasard ne produit aucun effet macroscopique. En revanche, dans un système ferromagnétique, j'ai des transparents que je n'ai pas montrés, qui auraient éclairé, je prends ici deux électrons, et ces flèches représentent leur spin, c'est-à-dire leur état de chiralité interne. Imaginons qu'on ait deux électrons proches qui aient des chiralités des mêmes spins, ou bien des spins opposés. En général, ça coûte de l'énergie de les avoir opposés. Donc, c'est là où on voit bien cette compétition entre énergie et entropie. Je regarde ici la configuration à gauche. La configuration à gauche, j'ai mis des plus, ils ne sont pas très visibles, je n'ai mis que des plus, c'est-à-dire que tous les spins sont, mettons, vers le haut, c'est ça que veut dire mon plus. L'énergie est très... on a minimisé autant que possible, car tous les spins s'attirent, mais c'est une configuration rare. Si elle est réalisée, le système aura un effet macroscopique, c'est-à-dire il sera aimanté. C'est ça, un aimant. En revanche, il se peut qu'on ait une configuration dans laquelle il y en a des plus et des moins, ils peuvent être tête bêche. Évidemment, ça coûte de l'énergie parce qu'ils n'aiment pas être tête bêche, mais il y a tellement de configurations comme ça, un si grand nombre, l'entropie, le nombre de configurations est si considérable, qu'ils peuvent avoir intérêt à faire ça. S'ils font ça, la moyenne est zéro, et le système n'est plus aimanté, sauf si vous mettez un champ magnétique pour ordonner. Donc c'est ça exactement, vous êtes exactement dans la compétition ordre des ordres, c'est bien ça qui se produit, c'est l'ensemble de ces spins. Ça avait été prédit par Langevin avant que les spins ne soient connus. Il avait, de l'étude du magnétisme, prédit qu'il devait exister microscopiquement des petits aimants, qu'on appelle spins, qui nécessaires pour expliquer le phénomène de magnétisme.
Merci, monsieur. Bien, nous allons tous vous remercier.